en visite au domicile de M. Yves Trudeau à l'occasion d'un événement très spécial à la Galerie La Serte, hein, une exposition d'œuvres choisies de 1960 à 2005. Mais ça nous donne l'occasion, une belle occasion de pouvoir rencontrer M. Yves Trudeau qui vraiment a plusieurs cordes dans son arc. Il est vraiment, bien sûr, sculpteur, hein, renommé, mais aussi professeur, chercheur engagé, théoricien. Alors, ben, je suis ravie de pouvoir lui poser quelques questions. On espérait une exposition de M. Trudeau, hein, sa dernière rétrospective ayant eu lieu en 2008 à Sherbrooke, au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. On est absolument ravie qu'il y ait une exposition d'une sélection de vos œuvres. Bienvenue.
Bienvenue à vous-même.
Vous m'avez dit, M. Trudeau, que l'exposition en cours, ben, elle vous réjouit, hein?
Oui, beaucoup. Écoutez, moi, j'ai eu comme une drôle de réaction. J'ai eu une drôle de réaction. La réaction est la suivante. En entrant dans la galerie, d'abord, je l'ai trouvée très belle. C'est pas mon choix, disons. C'est le choix, disons, du galeriste. C'est pas non plus mon travail de l'avoir disposé. Habituellement, je suis plus actif de mes expositions. Celle-là, je l'ai laissée entièrement entre les mains de La Serte. Et je l'ai vu, j'étais un peu ébloui. Et j'étais plus fort que moi, je lui ai dit. J'ai dit, bon, ben, ça fait du bien. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis, à force de perdre des choses, d'être refusé en divers endroits, j'ai dit, on finit par manquer de confiance en soi. Puis je dis, quand une exposition semblable arrive, ben, j'ai dit, ça remonte au moral, ça remonte la confiance. Puis c'est ce qui s'est produit.
Ça remonte la confiance à ce point. M. Trudeau, vous avez annoncé la grande nouvelle qu'une de vos œuvres a été récemment vendue à l'encan Eiffel. Vraiment un prix impressionnant, lequel?
Ah, ben, mon Dieu, oui, c'est un drôle que. Moi, j'avoue que ça m'a soufflé, cette chose-là. C'est une œuvre que le propriétaire avait payée 1 500 $.
En quelle année? C'était absolument étonnant.
C'est même pas un an, et je dirais au plus 6 mois. Et puis, pour des raisons que j'ignore, il l'a remis en vente et il l'a vendu 29 000 pièces. J'en reviens pas. C'est vraiment, disons. Moi, ça me dépasse parce que jamais je.
Alors, votre cote va augmenter de beaucoup, là.
Mais c'est ce qu'on
m'a dit. Depuis quelques semaines.
Mais c'est pas mon problème. Ça serait le problème de La Serte, ça.
Et malheureusement, quand on parle de marché de la revente, ben, il n'y a pas d'argent qui vous revient, hein?
Non. On n'a pas encore ça au pays. Ça existe en Angleterre, pas en France, c'est-à-dire, ça existe en Italie, mais pas au Canada. On a déjà essayé de l'implanter, ça. Pour avoir été discuté longtemps de ces choses-là à Ottawa dans des délégations d'artistes, là, je ne le fais plus, ça. Et je l'ai fait longtemps.
Alors, M. Trudeau, merci de ces précisions. Revenons à votre exposition. Hein. Ce qui est intéressant dans votre exposition, c'est que je pense que toutes les étapes importantes dans votre carrière sont représentées dans cette exposition spéciale à la Galerie La Serte, ouais. Jusqu'au 14 octobre, ou presque.
Oui, il n'en manque pas beaucoup, en tout cas. Je ne peux pas être comme ça. Je regarde dans ma mémoire. Il y a peut-être quelques œuvres, disons, de transition qui ne sont pas là, parce que ça existe.
Plexiglas.
Ça existe. Il y a des plexiglas qui devraient être là, mais qui ne sont pas là.
Merci à votre épouse de nous donner cette précision.
Oui. Parce que ça demande, disons, une installation qui doit être présentée, disons, dans une demi-obscurité, avec sur un plateau. Le pire, c'est que j'ai les plateaux. C'est des plateaux qui sont installés avec en dessous une lumière, un black light. Et quand on a ça, le plexi vit uniquement, disons, en fonction de ses arêtes qui deviennent très vives. Et on peut les voir, mais on ne voit plus la masse de la sculpture. Tout ce qu'on voit, c'est le dessin dans l'espace. C'est intéressant. Mais en tout cas,
j'aurais apprécié, finalement, avec votre description, j'aurais apprécié pouvoir voir ses œuvres. Mais on souhaiterait vous découvrir, hein, découvrir votre parcours. M. Trudeau, vous êtes un sculpteur renommé. Parlez-nous un petit peu de vos différentes étapes et vos sources d'inspiration, le lien que vous faites entre les différentes étapes.
Ben, écoutez, je vais vous donner bien.
Si c'est pas trop vous demander.
Non, je vais essayer.
Oui.
Disons que, comme beaucoup d'artistes, j'ai commencé par faire de la figuration. Et quand je dis de la figuration, ça, c'était très, 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 très réaliste. Après ça, graduellement, je suis allé, ce que j'appellerais, aller à l'essence des choses, mais non pas à la garniture. Bon, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que qu'une personne soit belle ou qu'elle soit laide, si on la reproduit telle qu'elle est, ben d'abord, celle qui est laide ne s'aimera pas. Celle qui est belle, ben, va s'en glorifier. Mais il n'y a plus de changement, ça, si vous voulez. Alors que si on va à l'essence des choses, on va essayer de rendre plutôt ce que j'appellerais l'irrendable ou ce qu'on ne voit pas à l'œil nu.
L'intangible, peut-être?
Oui, l'intangible, oui. Ou encore l'attitude fournie, si vous voulez, par la personnalité elle-même ou son âme, si vous voulez, sa vie. Alors, à ce moment-là, je me suis mis à faire des personnages qui, je dois dire, avec le temps, était fortement influencé d'Henry Moore. Et après ça, d'Henry Moore, il y a une autre influence qui est venue. C'est un Suisse qui s'appelle Lembrock, qui lui étirait ses personnages. Il les rendait très grands, très minces. Alors vous aviez le côté lourdeau d'Henry Moore, mais allégé par l'élongation, si vous voulez, de Lembrock. Et de fil en aiguille, j'ai passé à l'abstraction sans même trop m'en rendre compte. Et la première œuvre que j'ai faite, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une euphorie pour s'en procurer, c'est celle que j'ai baptisée, à tort ou à raison, La Citadelle lunaire. C'est une œuvre qui fait peut-être, je dirais, une vingtaine de pouces de hauteur, qui est, disons, c'est un bronze, évidemment, qui est patiné vert, mais c'est une belle œuvre. Mais jamais j'aurais cru qu'elle aurait pu déchaîner les gens à ce point-là. Parce que, curieusement, dans les années 60, après l'avoir fait, je la suggérais, disons, dans divers salons. Elle était toujours refusée. Puis à un moment donné, j'ai fait une petite crisette, puis j'ai dit à ma femme, écoute, elle est toujours refusée, là, je te la donne. Si tu as vu, là, je te la donne. Et puis je lui ai donné la première, celle que j'ai faite. Et effectivement, elle l'a, puis je ne la vendrai jamais. C'est son œuvre à elle. Je lui ai
c'est le beau cadeau, hein?
Oui. Alors, oui, effectivement, c'est un beau cadeau. Parce que maintenant...
Mais on ne peut pas voir de la Citadelle lunaire là exposée actuellement à la Galerie Lassalle.
Non, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas.
Ils ne sont plus sur le marché.
Ben, il y en a très peu. Il y en a eu dernièrement.
Ils sont dans les collections.
Oui, dernièrement, il y en a eu peut-être deux là, qui ont été offertes aux gens, là. Et puis je pense qu'elles sont même pas demeurées une semaine sans être vendues.
Donc les citadelles lunaires qui sont vraiment très 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 appréciées et qu'on a redécouvert ces derniers temps. Et oui. Il y a aussi vos œuvres de fer et de bois hein, qui sont très 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 en demande actuellement. Et je suis tellement ravie que vous puissiez me parler parce que dans cette période-là de fer et de bois, vous avez aussi créé une œuvre pour l'Expo 67.
Oui, mais écoutez, oui, effectivement.
Et ça, je suis ravie de pouvoir parler avec un artiste qui a contribué à Expo 67.
Moi, je dois vous dire que oui, effectivement, c'est bien drôle parce que j'ai commencé à faire des fers de bois dans les années 62 quand j'ai eu la crise des États-Unis puis de Cuba. Bon, à ce moment-là, j'étais à faire mon deuxième fer de bois. Vous savez, c'est parti, c'est un jour, je jonglais, puis j'ai eu le drôle d'intuition d'émettre une hypothèse qui était celle-ci. Est-ce qu'on peut réunir deux éléments dissemblables comme le bois et le métal, les traiter chacun, disons, avec des outils qui sont leur sont propres. Alors, pour le bois, c'est la gouge, et le métal, disons, évidemment, c'était le marteau et puis la soudure éventuellement, et les réunir. Et quand on les réunit de telle sorte que ça fasse un tout, sans que le deuxième consomme le premier. Alors, les trois premiers que j'ai faits, je les ai consumés. Mais consumer le bois, là, on n'a pas pu s'en servir. La quatrième, c'est un peu mieux. J'ai sauvé le bois. Et finalement, j'en suis venu à une méthode pour faire le bois et sans que je consomme le bois. Par contre, cette hypothèse était juste. Et quand l'expo est arrivée, moi, j'étais à la fin de ça. J'estimais que j'avais fini de dire ce que j'avais à dire avec le fer et bois. Et je cherchais une autre chose à dire, une autre façon d'aborder le problème de la création. Et indirectement, c'est l'expo qui me l'a fourni.
L'expo 67?
Oui. Et moi, j'étais président de l'Association des sculpteurs du Québec à l'époque. Et je me souvenais...
Et que vous avez fondé?
Oui. Mais pas tout seul. C'est-à-dire que j'en ai eu l'idée, puis je me suis ramassé avec un petit groupe autour, puis on l'a fondé ensemble. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu l'architecte en chef de McGill m'a appelé, qui lui dirigeait un comité, disons, d'architectes pour l'expo 67. Puis au téléphone, il me demande, il dit, « Monsieur Trudeau, vous êtes le président de l'Association des sculpteurs du Québec. » Il dit, « Comment réagiriez-vous si on vous suggérait, si on vous demandait, disons, de concourir pour chacune des œuvres dont l'expo veut se nantir, et comment vous réagiriez-vous à ça? » Et moi, j'ai eu une réponse assez cinglante, mais rapide. J'ai dit, « Vous-même, les architectes, avez-vous concouru? » Ah, il dit, « Non. » J'ai dit, « Pourquoi? » Il dit, « On est des professionnels. » Alors, j'ai dit, les sculpteurs, j'en ai aussi. J'ai dit, non, on confond. Moi, j'ai dit, je ne tiens pas à concourir. Et si je vais dire à mes membres de ne pas le faire, de ne pas concourir quand on leur offre une œuvre, oui. Je dis, mais ajoutez, c'est pour ça. Si vous réussissez, alors, je dis, combien d'œuvres voulez-vous ériger? Et on dit, 20, à peu près. J'ai dit, si vous trouvez 20 bonhommes capables d'administrer un budget qui n'arrivera pas en dessous, qui n'arrivera pas au-dessus. Je dis, quelle lève, je vais être prétentant, et puis valable. Je dis, vous viendrez m'en reparler. Il dit, merci, monsieur. Là, le temps a passé. J'ai dit, bâtèche, j'aurais pas dû ouvrir ma grande gueule, parce que je veux pas. Ça faisait les mois passés, puis je n'ai pas demandé pour un concours. Ils n'ont pas dû l'aimer. Finalement, j'ai eu un appel dans la semaine précédente, Noël 1966. Hey, c'est tard en diable, ça. Parce que l'expo ouvrait en avril. Et il n'y avait rien à faire à part ça. Noël, le jour de l'an, il n'y avait rien à faire. Tout est fermé. Alors, j'avais trouvé, par le biais d'un ingénieur que je connaissais, lui m'avait fourni le nom d'un type que je devais approcher et qui serait peut-être, disons, habilité à me seconder, disons, dans la réalisation de cette grande œuvre-là. Alors moi, j'étais... C'est bien beau, l'œuvre, mais seulement... On m'a donné une semaine pour trouver une maquette. Et j'ai réussi à la faire, puis à la proposer, elle était acceptée. Ceci dit, on a discuté, on s'est mis d'accord pour faire une œuvre de 31 pieds d'eau, qui comporterait du son et du mouvement, et puis on s'est mis au travail. Après le jour de l'an, et là, on a travaillé comme des dingues.
Vous avez créé comme un personnage, hein, mobile.
Oui, oui, c'est-à-dire que c'est un...
De fer?
Oui, c'est un personnage, vous voulez, mais c'est un personnage à l'indienne. En ce sens que, je vous ferai une petite confidence, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est un peu comme un totem. En ce sens que vous avez un piétement, vous avez un corps et vous avez une tête. Bon, la tête, évidemment, bouge à raison d'un tour minute dans le sens des aiguilles d'une horloge. Mm. Le corps central, lui, bouge dans le sens contraire. Disons, à raison d'un tour minute, mais revient à son départ à raison de 3 tours minute. Or, ça, c'est tout un tour de force parce que cette partie-là pesait 1,5 tonne. Alors, une masse que vous avez arrêtée, puis vous la faites repartir brusquement, et qui pèse 1,5 tonne, c'est tout à fait. Il y a eu une réunion avec des ingénieurs.
Et est-ce que ça a fonctionné?
Oui. Oh, oui, oui, très bien, très bien. Excepté que les ingénieurs eux, qui sont réunis avec nous, il y en avait une vingtaine, puis il y en avait deux qui ne l'analysaient pas. C'était moi et puis le type qui travaillait avec moi à Magog. Et lui m'avait dit, t'en fais pas, tu me feras un clin d'œil, puis je prendrai la défense de l'affaire. Il voulait absolument me faire changer le dessin, si vous voulez, de mon œuvre, parce qu'ils avaient peur que la fatigue du métal, que ça se brise, puis que ça se balade sur les gens. Et moi, je leur ai dit, non, ça n'arrivera pas. Absolument pas, ça n'arrivera pas. Mais il fallait qu'on... De toute façon, moi, chez moi, c'est fini, les fers et bois, mais je l'ai bâti de la même façon, disons, que les fers et bois. Et en plus, c'était totémique. Et là, j'en arrive. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'avais ensuite j'ai de l'Indien. Pas tellement loin, mais assez loin quand même.
Bon. Et là, maintenant, donc, votre œuvre était située à côté de quel pavillon?
Ben là, elle était située à côté, sur la place de l'univers. Alors ça groupait le pavillon de l'homme et les régions polaires, l'homme et les planètes, puis l'autre, je me souviens plus ce que c'était. Il y en a un troisième, là.
Et cette œuvre-là, donc, elle a été très appréciée durant l'Expo 67. Où est-elle même présentement? Elle est démontée. Elle est entreposée actuellement. À quel
oui,
endroit?
Actuellement, je ne sais pas, c'est dans les garages de la ville de Montréal, parce qu'elle était exposée, elle était dehors, ils l'avaient réinstallée. C'était un landmark, si vous voulez, de l'Expo 67. Puis, elle a été même très publiée, à un moment donné, on la voyait tout le temps. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont démontée pour pouvoir la remonter, parce qu'il m'avait dit, on va remettre le son, on va remettre, disons, le mouvement, et on va la rapprocher du calvaire. Ils ont même fait toute une place pour la recevoir. Mais quand ils ont eu fait tout ça, ils m'avaient demandé les plans de la mécanisation que je leur ai donné. Quand ils ont cherché la mécanisation, ils se sont rendus compte qu'elle avait été volée. Alors ces 12 000 piastres, ça, boum, disparu.
Quelle histoire pour cette sculpture titrée « Le phare du cosmos » qui était Expo 67. Monsieur Trudeau, peut-être nous décrire brièvement vos autres phases qui ont suivi la période fer et bois.
Oui, bien justement. Le phare du cosmos marque la fin des fers et bois. Et pour la travailler, à un moment donné, dans l'usine où nous étions, l'usine était haute, mais pas encore assez haute pour avoir le 31 pieds. Alors, il a fallu travailler le piétement couché. Et comme je l'ai vu pendant près de 3 mois de cette façon-là, ça m'a resté dans le subconscient. Et ce qui m'a resté dans le subconscient, c'est tous les angles de rencontre, si vous voulez. Et ça a resté de même. Jusqu'à temps qu'un jour, en m'amusant avec un carton d'allumettes, j'ai retrouvé ces angles-là, j'ai retrouvé une façon de produire une œuvre dans l'espace, mais qu'on pouvait basculer sur un axe imaginaire, si vous voulez, un axe universel imaginaire. Alors à ce moment-là, Mettons qu'on l'avait d'une façon, on pouvait la balancer de l'autre façon pour arriver finalement jusqu'à 5 et 6 fois une œuvre différente. Si bien qu'actuellement, les gens ne sont pas le plus drôle, c'est quand ils ne sont pas conscients. Quand ils achètent une œuvre qui s'appelle des murs fermés ouverts, c'est pas une œuvre qu'ils achètent. Ils achètent une œuvre et ses composantes.
Mm.
Donc, c'est différentes façons de se poser dans l'esprit. C'est un peu un jeu. S'ils veulent, ils peuvent jouer la main. Elle leur appartient, ils peuvent la manipuler. Et dès le moment où ils la manipulent, ils s'en rendent compte. Elle se pose de différentes façons. Puis, généralement, elle devient tout autre. Elle peut devenir, de douce qu'elle était, elle peut devenir agressive. Ou, disons, calme. Moi, je suis assez fier à cette période-là. Mais c'est une période.
Et ça, c'est une période.
Très longue.
Art Age et minimalisme.
Oui, quasiment 20 ans. Hein? Quasiment 20 ans à exploiter cette chose-là, jusqu'à temps que j'arrive en 86 à peu près, à des choses qui sont devenues, que moi j'ai appelées, disons, parvis et portail. En ce sens que.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers cette nouvelle étape?
Oui, bien, c'est ça. C'est une œuvre qui, à un moment donné, je manipulais encore une fois, et je me suis rendu compte que quand on les plaçait d'une certaine façon, je retrouvais une ogive gothique.
Ah oui.
Je me suis mis à exploiter cette chose-là. Et
nous sommes d'ailleurs entourés de dessins ici, de votre source d'inspiration gothique.
Oui, et puis vous savez que c'est la première chose que j'ai été voir, c'est quand j'étais en Europe, courir les cathédrales. Parce que je voulais voir les choses gothiques et j'ai été voir les cathédrales, en voulez-vous en bloc, à un point tel que j'en suis sorti égaré jusqu'à un certain point. Puis ça, puis les ports, les places fortes, qui est une autre expression du gothique, mais disons, d'une façon plus brutale, si vous voulez. Or, non, c'est une autre de mes passions, ça. Ça, et l'histoire, disons, des croisades, l'histoire, disons, du Moyen-Âge, ah, mon Dieu, oui. Alors, les lectures, j'en ai faites de ce côté-là. Mais pour revenir à mon propos, c'était tout simplement de présenter, d'abord, de m'approprier certaines solutions architecturales, disons, gothiques et des fermiennes, et d'autre part, de les présenter comme des devantures de place forte, de cathédrale, si on veut, et avec précédé, évidemment, d'un parvis. Et je suis monté sur le clou, ce que j'ai enfoncé dernièrement, là, depuis un bon bout de temps.
Oui, parce que votre étape la plus récente, c'est Vestiges, depuis 2005.
C'est ça. Alors, les Vestiges, c'est exactement encore la même chose. Vous avez les façades, mais on va un peu plus loin. C'est-à-dire que ce sont des façades qui sont érigées seules, disons, dans l'espace, et qui sont ou le résultat d'une guerre, le résultat d'un cataclysme, ou encore, tout simplement, je dirais, l'indifférence, si vous voulez, des commettants, là, pour entretenir nos ruines, si vous voulez, et en faire, si vous voulez, non pas des monuments, mais tout au moins des exemples, si vous voulez, de ce qu'a été l'architecture de telle époque et compagnie. Alors, c'est un peu cette histoire-là que je fais actuellement.
Vous avez à votre actif 42 œuvres d'art public?
Oui, oui, oui. Ça, c'est toutes celles qu'on comptabilise. Oui, oui, ce sont des œuvres publiques, disons, qu'on retrouve, par exemple, à Ottawa.
À Saint-Laurent,
Oui, place du Portage. Saint-Laurent, où c'est à la fois, comment est-ce que je dirais, donc, le rappel de ce qu'était l'ancienne Saint-Laurent, en ce sens que ça a d'abord été l'endroit où la sculpture, ça a d'abord été une ferme. Mais préalablement aussi, c'était un refuge indien. Ça, j'ai pas pu le souligner. Mais par contre, j'ai bel et bien souligné qu'une ferme, parce que pour rappeler que c'est une ferme, j'ai mis véritablement un sac de charrue dans le béton. Alors, vous voyez que le sol...
C'est très intéressant.
Oui, le socle, il recule le béton, il fend le béton. Et ça accompagne. Donc, sur le même site, vous avez les deux éléments qui forment, disons, une ogive gothique. L'équivalent d'une pierre angulaire sous forme de pyramide et le socle de sol. Alors non, c'est une petite installation qui en mérite bien d'autres.
Et parallèlement à votre démarche de sculpteur très intense, vous avez enseigné longuement, hein?
Oui, 30 ans.
À l'UQAM?
À l'UQAM, mais vous savez, je vais commencer au Beaux-Arts. Mais vous savez, le plus drôle, c'est que c'est une incidence dans ma vie, ça. Moi, j'ai jamais pensé qu'un jour j'enseignerais. Quand il y a eu la fameuse révolution, en même temps, disons qu'il y avait une révolution de jeunes à Paris, c'est à Montréal, ils ont fait une révolution à partir des Beaux-Arts. À un moment donné, les étudiants ont commencé à exiger de ne pas suivre la ligne, disons, connue par laquelle, disons, on prenait des gens issus du milieu des Beaux-Arts pour les faire enseigner. Bon, c'est pas que je suis pas issu de ça, j'ai étudié aux Beaux-Arts, seulement j'ai volé de mes propres ailes plus vite que le permettait, disons, la fin des travaux, des études. Et j'ai développé, disons, mon style, et on est venu me chercher. Et moi, par contre, j'ai jamais renoncé, ni à faire des expositions, ni à faire des contrats, si vous voulez. J'ai toujours dit, c'est pas la grosseur, disons, de la rémunération qui fait l'intérêt du contrat. Il n'y a pas de petite commande. Qu'elle soit petite ou grande, c'est à nous de la solutionner au mieux de notre connaissance et de notre création et d'arriver d'en faire un succès. Alors, en tout cas, j'en ai eu donc 42. J'en ai même quelques-unes en Europe et j'en ai d'autres, disons, au Canada, entre autres, en Ontario. Avec les étudiants, ils m'ont dit comment est-ce que je procédais. C'est drôle. Moi, je leur demandais de prendre les premières heures, disons, même les premiers jours, à jongler à ce qu'ils veulent faire. Et quand ils étaient sûrs de ce qu'ils voulaient faire, de venir me voir dans le bureau pour en discuter. Alors là, on en discutait. Des fois, je leur disais, mais vas-y, c'est prêt, mon vieux, vas-y, planche. Ou l'autre, non, c'est pas à point, là, tu vas continuer à travailler. Ou d'autres, je les envoyais à la bibliothèque. Par exemple, il y en a un, il m'est arrivé un jour avec quelque chose qui semblait à point, mais qui n'était pas tout à fait. Mais par contre, il ressemblait beaucoup à un sculpteur français que je n'ai pas connu, mais j'ai connu son œuvre très bien. Je voudrais vous le nommer, que là, j'ai un blanc, mais en tout cas, il reste que le garçon en question lui dit, quand il est arrivé avec ces choses, j'ai dit, sais-tu, tu prendras pas de temps pour travailler aujourd'hui. Il dit, pourquoi? Il dit, va t'asseoir à la bibliothèque, demande des livres sur tel et tel et tel artiste, c'est le même, là. Je regarde ce qu'on travaille, lis sur lui, puis tu viendras me revoir ensuite. Alors, il était faire ça. Il est revenu me voir au cours suivant. Il dit, vous aviez raison. Il dit, c'est vrai. Il dit que j'y ressemble. Bon, mais j'ai dit, t'as compris pourquoi je t'ai envoyé le voir. Là, maintenant, c'est à toi de développer ton truc. Mais j'ai dit, pas le copier. Va plus loin si tu veux. Recule pas, va de l'avant. Mais j'ai dit, ne le copie pas.
Merci beaucoup de ce témoignage, de votre expérience d'enseignant, mais vos recherches se concentrent vraiment autour des médiums. Hein. C'est quelque chose qui vous a... Quel a été votre médium qui vous a... Dans le fond, vous avez travaillé le fer, le bois, et est-ce qu'il y a un autre médium qui vous a captivé tout autant?
J'ai fait de la céramique, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de modelage. Maintenant, c'est beau de parler modelage, mais saviez-vous qu'on pouvait modeler avec le métal? Je vais vous en donner une preuve tout à l'heure avec ça. Mais je vais vous montrer l'original que vous avez juste dans le dos. Alors, vous comparerez les deux, vous allez voir. On voit très bien le travail de la torche, de la soudure sur l'original. Non, c'est... Vous savez...
ça vous a beaucoup occupé, le médium.
Oui. Vous savez, j'ai fait ça, moi, en un après-midi, devant les étudiants, pour leur prouver qu'on pouvait faire de la figuration, parce qu'il y en a qui se plaignaient à dire, « Ah, vous nous encouragez à faire de l'abstraction. » Je dis, pas du tout. Si ça tente de faire de la figuration, faisant. Oui, mais ils disent, non, m'a-t-elle prouvé. Puis là, je leur ai fait, hein. J'ai fait le masque comme ça devant eux. Et quand c'était fini, moi, j'ai dit, ouais, mais je ne l'aurais pas dit à eux, je l'ai pensé. Ça m'a fait penser à des masques syriens ou, disons, irakiens, ce qu'on peut trouver en Perse, par exemple, dans les fouilles. Alors, j'ai dit, on va jouer le jeu jusqu'au bout et on va le faire couler en bronze, on va le verdir en plus, pour qu'il fasse plus vieux.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir exploré tous les médiums que vous auriez souhaité?
Non. Mais j'en ai fait quand même pas mal plus. Hein. On parlait tout à l'heure de ce qui manque, là. Mais il est revenu en mémoire toute une section d'œuvres que j'ai faites, mais à partir de la notion, si vous voulez, de changement de couleur. Une œuvre change de couleur automatiquement. C'est-à-dire que quand on l'expose à la lumière, suivant qu'on est devant ou derrière ou sur le côté, on ne la voit pas ou on ne l'aperçoit pas, disons, toujours dans la même couleur. C'est que l'œuvre est vue à travers un prisme, ou disons un filtre, pardon, qui transforme la lumière du jour, disons, en démontrant ou en nous exposant une partie du spectre, disons, lumineux. Alors, il y en a un qui peut le voir rouge, d'autres le voir vert, l'autre va le voir un mauve, mais j'ai fait des œuvres comme ça.
Peut-être nous parler de votre exploration des médiums là, pour vos sculptures.
Ben écoutez, moi j'ai d'abord commencé, c'est pas beaucoup connu, mais j'ai commencé par faire de la céramique. Et quand je dis de la céramique, là, c'était beaucoup de modelage, si vous voulez. Même j'ai commencé à faire des petites figurines dans le modelage. Puis après ça, j'ai fait des tuiles. J'ai beaucoup de vases. Seulement, j'ai toujours été incapable de répéter. Ça me pionne, répéter la même forme, là. Non. Et ce qui m'a convaincu de faire de la sculpture, c'est que je réfléchissais aux œuvres que je voulais faire en sculpture pendant que je tournais des vases, mais je ne pouvais pas, pardon, je ne faisais pas l'inverse. Par exemple, je ne pensais pas aux vases quand je faisais de la sculpture. Alors, ça, c'est définitivement, là, c'était autre chose. Et quant au matériau, j'ai commencé par le matériau le plus vulgaire qui soit, si vous voulez, c'est l'acier. Cependant, j'ai jamais travaillé de l'acier rouillé. J'ai toujours travaillé de l'acier, disons, qui était propre, qui était neuf. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais ça comme ça. Et grosso modo, j'ai varié mon acier, mon épaisseur d'acier. J'ai varié également ma composante. Par exemple, j'ai travaillé un temps avec du corten. C'était même la rage, à un moment donné, le corten. Mais je me suis rendu compte, moi, que c'était pas si bon que ça. En ce sens que vous prenez une pièce faite en métal, une corten, et si vous en faites une boîte, par exemple, et que vous mettez ça à l'extérieur, l'intérieur comme l'extérieur va rouiller, et quand ça va atteindre sa maturité, ça va se peler. Mais à un moment donné, est arrivé ce qui devait arriver avec une œuvre que j'avais dans la cour, j'ai pu me passer les doigts à travers sans me blesser. Alors j'ai donc dit, la corten, non, à éviter. Non, on est mieux d'employer de l'acier doux, et de peindre, disons, de l'acier doux, ça résiste mieux que le corten, je pense. À côté de ça, ben mon Dieu, j'ai travaillé l'inox. J'ai même fait toute une station de métro à Ville-Saint-Laurent, là, en inox.
Bien sûr, il y a le fer et le bois, hein?
Oui. Ben, le fer et le bois, vous avez raison, mais c'est une chose, enfin, bizarre, hein, indirectement, d'associer, si vous voulez, les deux choses, mais le résultat est quand même intéressant. C'est pour ça que je l'ai maintenu. Par contre, quand j'ai eu l'impression d'avoir fini de dire ce que j'avais à dire avec, je l'ai abandonné pour me retourner vers autre chose.
Tel que le bronze?
Oui, que le bronze. Le bronze, quoique, j'avais commencé avec du bronze. La première exposition que j'avais faite était faite avec uniquement des choses en bronze. Et je l'ai abandonné, si vous voulez, pour faire les aciers. Et je suis revenu au bronze, finalement, avec le temps. Et je ne le regrette pas. Parce que
vos dernières étapes, peut-être?
Ben oui, peut-être. J'ai remarqué aussi que quand on parlait tout à l'heure des parviers portails, c'est également c'est une drôle d'impression. Quand vous regardez ça, oui, c'est une appropriation, disons, de châteaux, de choses semblables. Mais malgré tout, il y a une certaine noblesse de ces choses-là. Et il y a une certaine élévation aussi quand on les regarde.
Qui nécessitait un matériau noble.
Oui, et de ma part, c'est peut-être parce que je suis vieux. Que je me suis tourné vers ça, parce que j'ai 86 ans, puis peut-être que je sens que c'est peut-être mes dernières années, et bon, que je pense peut-être à mes fins dernières, si vous voulez.
Un énorme merci pour nous avoir présenté votre carrière de sculpteur, hein. Je pense qu'on a fait un survol, il y aura encore beaucoup à dire, mais il n'y a rien de mieux que d'aller voir aussi vos œuvres de près, de se rendre à la Galerie Lacerte, voir les œuvres qui sont encore très inspirantes pour vous. Alors, merci de nous avoir présenté votre expérience de sculpteur et d'artiste.
La prochaine fois, on vous accueille chez nous.
Oui, dans votre bel atelier, vraiment dans Outremont. Nous avons dû faire l'entrevue à un autre endroit, mais oui, on pourrait aussi parler de vos trois ateliers à la maison.
Ça me fera plaisir, madame.
Oui, vos trois magnifiques ateliers à la maison. Merci.
Pas de problème. Un plaisir de vous offrir à boire.
Merci beaucoup, M. Trudeau. Ça fait un plaisir.
Bienvenue.
Madame Huguette, merci.